l'artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art.
Les surréalistes ont toujours voulu être révolutionnaires. C'est un titre qui leur plaît beaucoup, la révolution. Ils ont mis le surréalisme au service de la révolution. Vers 1930, j'ai d'abord été sculpteur, poseur d'yeux et de dentiers sur des mannequins en cire. Je reprenais le maquillage, parce que sur un ton lourd, on peint fin dans la peinture, n'est-ce pas? Alors, à l'aide de tons de fard, nous reprenions les yeux qui étaient maquillés, beurrés, enfin. Et puis les bouches, on faisait des carnations. C'était une expérience étonnante et absolument et extrêmement intéressante pour moi, au point de vue pictural, le maquillage des femmes. Et j'en ai tiré un grand parti dans la peinture de mes tableaux.
On commence cet artichaut sur les ondes de RDIWA avec Clovis, Trouille et Carotte, évidemment, derrière les micros pour vous en parler avec passion.
Bah oui, parce que justement, Trouille, c'est le genre de Trouille qu'on aimerait bien avoir chez soi, s'il y en a un qu'on adore, c'est lui. Donc, c'est son vrai nom, Camille Clovis Trouille. Alors, je t'ai demandé si on en avait déjà parlé, parce que je suis sûre d'en avoir beaucoup parlé quand on a abordé les surréalistes et André Breton et le Dada et tout ça. Mais lui, il est vraiment hors parcours de tout. Donc déjà, il a une vie longue.
Donc il ne fait pas partie des surréalistes.
Les surréalistes, ils ont ratissé large, ils auraient bien aimé, mais sauf qu'intellectuellement et vaniteusement, Clovis Trouille, c'est un sincère. C'est Clovis des francs peintres, quoi. Tu vois, roi des francs peintres. Donc, pas de chichi, pas de tralala avec un mec comme André Breton. Il ne pouvait clairement pas s'entendre. Du coup, il a eu une énormément longue vie parce qu'il est né à la Belle Époque. Il est né le 24 octobre 1889 dans l'Aisne et il va mourir le 23 septembre 1975, donc à 86 ans, à Neuilly-sur-Marne. Il est anticlérical et antimilitariste, mais de la manière la plus drôle et humoristique qui soit. Et il a été traumatisé par la Première Guerre mondiale. Donc, il a été formé à la peinture, vraiment du Quattrocento, quoi, la peinture classique du 15e italien. Il manie merveilleusement les clairs-obscurs. Il est très bon. Et malheureusement, dès 1912, donc il a 23 ans, il est balancé sur le front. Il va passer 7 ans sur le front. Et quand il va revenir de là, il va être traumatisé pour la vie et il va perdre sa touche de peintre classique. Son esprit va abandonner une espèce de facture.
À quoi ressemblait son art, du coup?
Bah, tire à voir. Il a remporté le premier prix des Beaux-Arts d'Amiens en 1907 avec un tableau très classique qui s'appelle La jeune fille blonde. Et après, quand il va revenir de la guerre, il va faire un complètement nouveau style de peinture où il y a du collage aussi et qui va tenir plus de l'illustration, de la bande dessinée, du kitsch, avec une fantasmagorie, un univers très proche de celui de Renoir. On pourrait dire, tu vois, un peu que c'est le Renoir de la bande dessinée parce que... il aime les culs des femmes, il aime les femmes et donc finalement il va faire une peinture qui va être jugée érotique, beaucoup trop érotique, et puis en plus avec ce côté antimilitariste, anticlérical, il pleut des décorations sur des curés qui ont des portes jartelles et qui sont hommes en haut et leur soutane est ouverte sur des jambes de femmes avec des talons hauts et des portes jartelles violets. Donc, tu vois l'ambiguïté du personnage.
Et là, dans l'extrait que tu nous as fait découvrir en intro d'émission, il parle de la création des masques.
Des mannequins.
Des mannequins. Et du coup, est-ce que c'est deux parce qu'il aimait tellement aussi en fait, les femmes ou le corps des femmes que ça l'a aussi...
Bah, en fait, ça, déjà, il voulait travailler. Déjà, c'est quelqu'un qui voulait affranchir son art du côté thune. Il ne voulait pas que son art soit dépendant de thunes, d'achat, tu sais, genre le mec qui fait son petit pain, ça se vend bien, et il est condamné toute sa vie à faire le même petit pain. Non. Donc, il a tout de suite cherché du boulot. Et il se trouve qu'il est tombé... il a commencé à travailler comme illustrateur et créateur pour une maison de couture qui s'appelait Dragère. Là, après, en 1912, il est mobilisé pour le service militaire. Donc, il va passer 7 ans sous les drapeaux, 4 ans pendant la Première Guerre mondiale sur le front de Picardie et de Champagne. Donc, franchement, les endroits où ça tombait comme à Gravelotte. En 1920, il va épouser Jeanne Valot. Il va avoir 2 filles. Hop, il s'installe à Paris. Et là, à partir de 1925 et pendant 35 ans, pendant toute sa vie, il va travailler comme maquilleur retoucheur chez un fabricant de mannequins de vitrine qui s'appelle Pierre Immense. Alors déjà, immense, ça s'écrit I-M-A-N-S, mais donc immense. Et donc, il est vraiment immense, ce Pierre. Et donc, si vous voulez aller voir plus loin, il y a une petite vidéo de YouTube de 8 minutes qui s'appelle « Les photos qui parlent », où il parle de ce travail donc, sur des mannequins en cire qui sont, dont les têtes sont moulées à chaud. Et pendant que c'est encore chaud, hop, on leur met des yeux qui sont en céramique. Et on leur colle des cils qui sont souvent en vison. Et puis les cheveux. Et après, on leur donne une carnation fond de teint peau de pêche. Et ensuite, on les maquille. Et du coup, il a énormément travaillé sur ces modèles de mannequins qui, dans les premiers temps, sont super bien faits. C'est de la sculpture sur cire, en fait, tu vois. Et ça va durer pendant des années. Et il va prendre un malin plaisir. Donc voilà, lui, il peint toute la journée des nichons de femmes avec les tétons et tout ça. Alors, je ne sais pas si elles ont des fausses culottes, tu sais, comme les Barbie, ou si elles sont sexualisées, les mannequins. J'en sais rien, mais voilà ce qu'il fait. Et en fait, il adore ça, il est fou de ça. Et dans ce type de travail-là, il est super bon pour faire des espèces de pin-up. Mais voilà, comme il est né en 1889 et qu'il va faire tout le siècle et les deux guerres, son trait est déjà super moderne. Et du coup, ça donne une touche complètement originale et inédite à ses tableaux, qui sont d'assez petit format. Donc, c'est du 40-60, du 60-70. Enfin, c'est pas très grand.
Mais du coup, il n'y a pas quelque chose de sombre dedans? Parce que moi, j'avais peur un peu quand tout à l'heure tu disais que son art avait totalement changé par rapport aux expériences qu'il a pu vivre après. Je me demandais donc si, on partait d'un art de base avec beaucoup de couleurs et qu'après, bon, tu as dit que ça avait changé avec du collage, il apporte d'autres formes artistiques et tout, mais ça reste, sert d'être un bon petit bonhomme. Quoi.
Ah ouais, enfin, Non, il a réussi à justement transcender son traumatisme par la peinture et en faire une peinture aussi qui dénonce. Dans ce sens, c'est un vrai peintre de l'anarchie. Ouvertement anticlérical, parce que les images qui montrent de sa façon dont il voit la religion, le clergé et tout ça, c'est à se poiler de rire. Quoi.
Le
c'est de la
tableau Remembrance.
Oui, alors le tableau Remembrance, justement, on va en parler un peu plus. Et donc, voilà, ce qu'il cherche, lui, c'est à ridiculiser tous les pouvoirs. Et dès la fin de la guerre, il se définit comme un anarchiste. Et il va travailler aussi dans la presse, l'illustration et des petits articles. Donc, dans Le Libertaire et dans Le Monde Libertaire. Il est clairement athée, militant. Et voilà, il dit « J'ai toujours été contre l'imposture des religions. Est-ce en peignant la cathédrale d'Amiens que j'ai pris conscience de tout ce music-hall ?» Donc, André Breton l'appelle le grand maître des cérémonies du tout est permis. C'est comme ça qu'il était surnommé. Donc, bien sûr, il a été proche des surréalismes. Il a été remarqué en 1930 par Salvatore Dali et André Breton. Et donc, en 1930, donc ce que tu regardes là, Remembrance, c'est 1930. Et elle va être, cette toile, exposée au Salon des artistes et des écrivains révolutionnaires. Et puis, elle va être reproduite dès décembre 1931 dans la revue qui s'appelle Le Surréalisme au service de la Révolution. Mmh. Et donc, on voit bien...
L'extrait que tu as choisi aussi du début où, en gros, le but des surréalistes, ça a toujours été la Révolution aussi, quoi.
Bien sûr. changer le monde. Et la peinture, l'art permet ça. Enfin, peut-être qu'on n'y arrive pas à chaque fois, mais elle interroge en tout cas et elle surprend. Donc, dans Remembrance, tu l'as sous les yeux, il met en scène donc un cardinal dont le manteau rouge s'ouvre sur des jambes de femme avec des portes-jartelles. Et il y a un académicien qui reçoit un animal qui lui pète au nez. Il y a des squelettes de soldats en uniforme qui serrent très fort dans leurs bras un lapin au pied d'une croix en bois, et c'est marqué 14-18 sur la croix, la sale guerre. Et les lapins, c'est parce qu'en fait, ils se sont tous fait tirer comme des lapins. Donc, c'est au prix de furieuses contorsions que la République détourne de sa vue la pluie de médailles qu'elle déverse du ciel. Donc, il dit clairement que toutes les médailles qui ont été données après-guerre, c'était souvent vraiment des mécréants. Donc, il va être dégoûté et il va s'éloigner de tout courant. En revendiquant bien sûr ses influences de la Renaissance. Donc c'est vrai qu'il a une façon de mettre en scène ses tableaux qui est tout à fait classique. Mmh. C'est pour ça que ça pète à l'œil, quoi. Et bien sûr, ça aussi emprunte à la culture de masse et de consommation qui est en train de s'animer et de devenir folle sous ses yeux. La bande dessinée, évidemment, et puis le kitsch des années, pour nous, 40, 50, 60. Donc... il va, entre 1933 et 1935, il va se mettre en réaction avec un groupe qui s'appelle Réaction contre le conformisme des salons officiels. Et donc, du coup, il va créer un groupe qui s'appelle les surindépendants. Donc, ça, c'est peut-être justement un clin d'œil à notre Manet du club des indépendants. Entre 1941 et 1952, il va faire des expos dans des salons indépendants, l'air de rien, quoi. Alors oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que... Donc, il bosse, en fait. Hein, il a un vrai boulot qui va durer toute sa vie. Et du coup, il peint quand? En fait, il peint le dimanche. C'est un peintre...
Un peintre du dimanche.
Ouais, alors c'est le seigneur roi des peintres du dimanche, quoi.
Et il a fait Là, je viens de découvrir, des tableaux qu'il a fait qui représentaient beaucoup le Alice au Pays des Merveilles.
Oui,
très inspiré du coup de cet animé-là, apparemment.
Oui, évidemment, très, très inspiré. Et on retrouve l'île de Citer, qui est un tableau très ancien. Enfin, il faut, quand tu as un œil sur la peinture vieille, vieille et classique, tu retrouves un peu des clins d'œil qu'il fait. Mais moi, j'adore ce mélange et j'aime aussi le corps de la femme et un sujet de peinture. Qui est vieux comme le monde. Et quand elle est représentée, c'est qu'elle est représentée vraiment comme une déesse de la beauté, de la création, de la paix, de l'harmonie, les formes, les courbes, la rondeur, la fécondité. Enfin, tout ça, c'est des vertus énormes que possède juste le corps de la femme quand il est vu et caressé par des jolis yeux et des belles pensées, évidemment. Et lui, je trouve que il est charmant parce qu'il s'inscrit vraiment dans un combat personnel contre... c'est vraiment Erin Brockovich seul contre tous, quoi. Alors bon, du coup, il va écrire et il va pouvoir illustrer tout ce qui est presse libertaire et un peu révolutionnaire, mais il va jamais, bien sûr, faire partie officiellement d'aucun groupe. Et il aime à dire « moi, je n'adhère qu'à moi-même ». Donc voilà, soyez votre propre gourou, n'adhérez qu'à moi-même. Et là, bon, bien sûr, il va devoir un peu faire chemin tout seul. C'est qu'il a une démarche anti-tout, mais qui est surtout anti-commerciale. Donc on le connaît peu, parce qu'évidemment, il ne cherchait pas à être connu. Alors il dit « Il n'est vrai que je n'ai jamais travaillé en vue d'obtenir un grand prix à une biennale de Venise quelconque, mais bien plutôt pour mériter 10 ans de prison, et c'est ce qui me paraît évidemment le plus intéressant. » Donc il ne veut pas vraiment vendre ses toiles, il veut bien consentir comme moi s'en séparer, mais des fois il peut vouloir les récupérer, parce que dans la nuit il a pensé que ça serait bien s'il y avait un petit détail, et ça peut aller jusqu'à un petit grain de beauté sur la peau. Donc, il est vraiment le papa de ces créatures à jamais et pour la vie. Et j'aime bien ce côté d'amour inconditionnel pour ses œuvres, comme si c'était tes propres enfants. Donc ça, je partage beaucoup avec lui. Donc évidemment, de l'humour noir, de l'humour corrosif qui vient, gommer un peu le côté pornographique, parce que pour l'époque, c'est quand même très osé et très cru. Et donc, ça ne se dit pas et ça ne se montre pas. Il est très sur l'autodérision parce qu'il est capable de peindre ses propres funérailles. Et en fait, ce tableau, Mes funérailles, au départ, c'était le tombeau du marquis de Sade. Et puis en fait, en le peignant, il a pris tellement de plaisir et ça lui a tellement plu qu'il se l'est approprié à lui-même. Ces tableaux se nourrissent évidemment de toutes les références qu'il a, parce que c'est un très grand lecteur et il n'arrête pas de lire de la littérature. Donc voilà, le bateau ivre, la peinture classique, donc le rêve d'Alice qui renvoie, voilà, c'était ça que je cherchais dans ma tête, le pèlerinage à l'île de Cythère d'Antoine Watteau. Donc il faudrait les mettre les deux l'une à côté de l'autre pour bien comprendre.
Car moi j'adore vraiment ce qu'il fait.
Bah ouais, c'est ultra moderne.
Vraiment, je kiffe, hein.
C'est
J'écoute ce que tu dis en même temps, je suis en mode oh waouh, bah, oh waouh, oh waouh, hey.
On peut dire que voilà, ça c'est de la vraie peinture anarchiste comme on aime la voir, la montrer et la comprendre. Alors il va aussi avoir du succès du côté du théâtre des années 70. Alors en 69, il y a un metteur en scène américain qui s'appelle Kenneth Steinam qui va s'inspirer d'une de ses œuvres pour faire un show d'avant-garde théâtrale qui s'appelle Au Calcutta, au Calcutta, et qui est une référence donc à une œuvre de Clovis Trouille qui s'appelle Au Calcutta et qui a un jeu de mots sur Au quel cul tu as, évidemment, hein, puisque on voit en gros le cul avec les deux petites herbes sur les fesses. Et donc c'est devenu ce show théâtral un symbole de la contre-culture parce que les performeurs sur scène, ils étaient tout nus. Alors nous, bien sûr, on a eu après R, où aussi pareil, les gens étaient tout nus. La comédie musicale dans laquelle jouait tout nu Julien Clerc, il paraît. Et c'est le tableau de Clovis qui va servir d'illustration à l'affiche et qui est même projeté sur le fond de la scène de là où a lieu le show de la pièce. Et puis, il va y avoir carrément un succès. Elle va être reprise à Manhattan et puis elle va être reprise dans un autre théâtre sur Broadway à partir de 71. Et puis jusqu'en 72, il va y avoir quand même 1314 représentations de ce théâtre tout nu. La mise en scène américaine est signée Jacques Lévy, la chorégraphie d'une certaine Margot Sappington. Et sur les planches, il y a une dizaine de comédiens, danseurs et trois musiciens. Alors, il va y avoir une première londonienne en 70, d'abord au Roundhouse et puis au Royalty Theatre jusqu'en 74. Et là, il va y avoir presque 6000 représentations. Et puis régulièrement, elle va être reprise sur scène jusque dans les années 80. En 71, un peu plus tard, la revue va arriver à Paris, à l'Élysée-Montmartre, avec une mise en scène signée de Philippe Corsan, qu'on aime beaucoup, et qui va tenir l'affiche quand même pendant plus de 4 ans. Elle va bien sûr être interdite aux mineurs, et dans la distribution des tout nus, il y a Jean-Claude Dreyfus, Evelyne Dress. Les textes français ont été écrits par Eugène Ionesco, Gébé et Volinsky. Il y a Jean Rollin qui, en 2002, va évoquer Trouille dans son film La fiancée de Dracula. Alors, on va en parler deux minutes. Mais peut-être qu'on va faire une petite coupure avec les gogos.
Allez, c'est parti. Tu nous as choisi donc ce petit
oui,
titre.
Oui, Your Lips Are Sealed. Parce que je voulais que ce soit des filles qui chantent le rock. Et puis, je sais que t'aimes bien un peu le rock des filles, un peu rockabilly.
Exactement.
Elles vont te plaire. À tout de suite. Les lèvres sont scellées.
C'est rock and roll.
Bah oui, un peu de
on adore.
Pulpeuse, rouge et scellée, des filles, des mannequins.
Ah oui.
Alors, la fiancée de Dracula, donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais ça a été réalisé par Jean Rollin en 2002. Et ça s'inspire fortement de l'artiste Clovis Trouille. Dans le film, on peut voir la célèbre toile de Trouille qui est intitulée Franciscaine de Sainte-Marie des Anges et qui date de 1945 et qui est installée en grand dans l'hôtel particulier parisien qui est occupé par les filles qui sont dans l'histoire du film. Alors c'est un film qui explore un univers qui est peuplé de monstres évidemment et de genre d'hybrides fantasmagoriques où un professeur et son assistant Eric cherchent les restes du comte Dracula et ils vont découvrir des liens étranges entre un nain vêtu en bouffon et sa promise vampire ainsi que d'autres personnages tels que la louve écarlate et une ogresse mangeuse d'enfants. Du coup, pour que les comédiens comprennent bien l'ambiance et les rôles, il a apporté sur le tournage du film plein de reproductions des peintures de Trouille qu'il a bien étalées partout. Et voilà, c'est un film qu'on peut voir. Alors, il y a aussi, j'ai trouvé, il y a une interview d'Alain Jonguet sur Clovis Trouille qui dure 22 minutes et qui est très intéressante. Et puis, pour ma part, on aura fait le tour. Alors, je me suis permis...
Moi, je conseille vraiment aux auditrices et auditeurs d'aller faire un tour sur Google Images, quoi.
Ouais, allez-y, profitez de l'artichaut pour aller découvrir.
Je m'éclate.
C'est riche, ça fait marrer.
Comme tu dis, en plus, c'est pas un artiste qui est vraiment spécialement connu, parce que c'était pas son but non plus, et que ça mérite vraiment d'être vu, quoi. Après... L'art reste toujours très subjectif, mais...
Non, mais là, je pense que maintenant qu'on a aussi du recul sur cet art-là, et on peut rétrospectivement voir la valeur picturale, la valeur narrative, la valeur politique peuvent avoir ces œuvres, franchement. Et c'est dans ce type de personnalité comme Clovis Trouille qui finalement faisait ses trucs sans rien trop demander à personne, en étant autonome aussi financièrement. Ben voilà, chapeau monsieur, merci. Puis voilà, un nom qu'on risque pas d'oublier.
Ouais, clairement.
Camille Clovis Trouille. Alors, je suis allée quand même faire un petit tour là, puisque les beaux jours arrivent, avec les belles expositions qu'il y a à voir. Alors, en banlieue parisienne, au musée des impressionnistes de Giverny, pas loin de chez Claude Monet, il y a la collection du milliardaire David Naman, qui est une des plus grandes collections d'art moderne privée, avec Picasso, Monet, Matisse et tout. Au musée des Beaux-Arts de Nancy, dans ma petite province, il y a un hommage qui est rendu aux pionniers du graffiti et qui part des années 60 jusqu'aux années 80. Donc des années 60, prison et amende, aux années 80, reconnaissance et vente en galerie. À Paris, il y a la fameuse merveilleuse dont on a parlé, Suzanne Valadon, qui est jusqu'au 26 mai au Centre Pompidou. Donc le réel, le nu, la femme, qui est une artiste quand même féministe sans le savoir avant l'heure. Et puis, il y a des balades gratuites dans les galeries parisiennes. Donc, par exemple, la célèbre galerie Dina Vierny, elle fait une expo qui s'appelle Les Voies de l'abstraction, où on trouvera du Kandinsky et tout ça. À la galerie Templon, toujours de la peinture contemporaine de bonne facture, qualité et qui se vend bien. À la galerie Hamid Kelafi, il y a de la peinture algérienne. À la 193 galerie, il y a de la peinture indienne. J'en sais pas trop plus, mais c'est toujours intéressant. Okay. Et puis, ce qui se passe là, c'est qu'avec Louis Vuitton, donc il y a eu une collaboration entre Pharrell Williams et la maison Louis Vuitton en 2014. Il a fait une expo à Paris qui s'appelait Girl. Et là, donc, en 2024, ils ont remis ça. Et c'est lui qui était le commissaire de cette exposition. Et il a invité des femmes noires. Alors, il y a des Américaines, des Africaines, Afrique du Sud, Canada, qui sont venues. Donc, il y a plus de 40 artistes femmes noires qui ont été invitées par Pharrell Williams à exposer. Et donc, il met en avant les femmes artistes noires
Chouette.
Comme créatrices. Créatrice d'humanité, d'universalité, tout ce que finalement on porte avec nous. Et que son propos à ce très talentueux garçon qui fait un peu de tout, puisque maintenant il va faire aussi il fait de la musique, de la production de musique et aussi du design et de la couture. Et donc maintenant il est commissaire d'exposition à Paris et il y habite. Donc je sais pas comment il a réalisé tout ça en si peu de temps, mais franchement, bravo. Et là, ils veulent leur rendre un hommage parce que finalement, avec la maturité, au départ, ils regardaient les femmes comme des bons plans, des bons coups, on va dire, et plutôt d'un côté esthétique et sexuel. Et là, avec ses 40 ans, il s'est rendu compte tout ce que les femmes portaient et comment c'était elles, l'énergie
40 ans,
créative.
40 ans, c'est un peu tard, mais c'est toujours mieux que rien.
C'est mieux vaut tard que jamais.
Tout à fait. Bon, donc, merci à ceux qui se rendent compte.
Moi, je ne suis pas fan des collections des milliardaires et des stars du showbiz qui mettent en avant des trucs avec la bénédiction et l'argent de Louis Vuitton. Mais cela dit, ben voilà, faut profiter. Hein. Des fois, il y a des bonnes actions, hein, finalement, qui sont faites. Donc, toute personne qui rend hommage aux femmes, voilà, mérite d'être citée. Donc, du coup, ben voilà, n'hésitez pas, si votre voiture vous permet d'accéder jusque-là. Malo, je t'aime, je t'embrasse. Pour finir, et ben donc...
Je t'aime, je t'adore. Et Pharrell Williams,
bah oui, du coup,
quittons-nous heureuse.
Voilà,
happy et on se dit à tout bientôt, même ambiance.
Et à partir des mercredis qui suivent, parce que c'est notre enregistrement, ça passe le vendredi, mais disons à partir des vendredis prochains, je vais faire passer dans l'émission quelques intervenants artistiques du Barnave aux Artistes. Comme ça, vous allez rencontrer nos petits amis. Voilà, et à très bientôt, à vendredi prochain. Bonne fin de journée, bisous.
Des bisous.
Like Personnellement, j'adore l'artichaut, cette émission qui parle d'art.